Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Le Monde de la Philosophie, dirigé par Rémi Soulier, émission préenregistrée le 6 juin 2018 et diffusée pour la première fois lundi 2 juillet 2018 de 10h45 à 11h45, réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bienvenue dans le monde de la philosophie, bienvenue à vous, Louis Saint-Martin.
Merci.
Bienvenue à vous, Pierre-Marie Sigaud. Je suis très heureux de vous recevoir l'un et l'autre. Louis Saint-Martin, vous venez de publier un ouvrage intitulé « Sagesse de l'astrologie traditionnelle », sous-titré « Essai sur la nature et les fondements de l'astrologie » aux éditions L'Harmattan, dans la belle collection Théoria, dirigée par Pierre-Marie Sigaud. Pierre-Marie Sigaud qui est également avec nous sur le plateau, qui est lui-même évidemment un très grand connaisseur de la pensée traditionnelle, des pensées traditionnelles au sens large, et qui a notamment dirigé le dossier H consacré à René Guénon aux éditions L'Âge d'Homme, il y a quelques années maintenant, et vous avez également dirigé, Pierre-Marie Sigaud, la belle collection Delphica, à L'Âge d'Homme, la collection Théoria à L'Harmattan, ayant en quelque sorte passé le relais.
Voilà.
Alors Louis Saint-Martin, nous allons évoquer pendant cette heure un sujet qui est très intéressant, je pense, qui est aussi qui souffre d'un certain nombre de connotations négatives ou légères lorsqu'il est abordé de manière infiniment superficielle, voire qui n'est pas abordé du tout dans son fondement, et qui est donc la question de l'astrologie, trop souvent réduite à ce qu'en fait une certaine vulgate dite New Age, voire aux pages horoscopes des hebdomadaires, des magazines, des journaux, ce contre quoi, évidemment, vous vous insurgez, votre livre n'ayant strictement rien à voir avec ces différentes catégories de divertissement, pourrait-on dire. Votre livre est un livre de philosophe, c'est un livre extrêmement argumenté, et c'est un livre dans lequel vous exposez la vision du monde traditionnel sur laquelle repose l'astrologie, j'ai presque envie de dire l'art astrologique, c'est un mot que vous employez, et vous utilisez même d'ailleurs le mot astrophilosophie, qui me paraît tout à fait pertinent bien sûr. Alors dans un premier temps, je crois que ce serait utile pour les auditeurs, Louis Saint-Martin, de définir ce à partir de quoi nous partons aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est-à-dire dans la modernité, lorsque l'on parle d'astrologie, et donc lorsqu'on resitue l'astrologie dans la perspective scientifique, ou scientiste, ou positiviste, autant de perspectives peut-être très réductionnistes, mais la science moderne développe un discours sur le monde et sur l'univers, qui n'est pas celui traditionnel, sur lequel se fonde l'astrologie et sur lequel nous allons insister, bien entendu. Mais avant, pourriez-vous nous expliquer en quoi, grossièrement, cette révolution galiléo-cartésienne, ce fondement de la modernité scientifique, a contribué à construire un monde dans lequel l'astrologie traditionnelle est devenue à peu près inintelligible?
Oui, vous situez très bien l'époque et la démarche. À partir de Galilée et de Descartes, Descartes étant vraiment le théoricien de cette rupture avec la pensée traditionnelle, dans laquelle je mêle aussi bien la pensée médiévale chrétienne que la pensée des Grecs, nos ancêtres communs à tous. Cette rupture intervient à ce moment-là, au moment où on cherche un langage qui puisse unifier les phénomènes et rendre compte d'une réalité. Mais à partir d'un principe lui-même réducteur. Et donc, à partir du moment où vous posez un principe et vous avez essayé de vérifier ce principe, il est rare, si votre intuition est bonne, que vous n'arriviez pas à un résultat. Seulement, vous laissez de côté tout le reste. C'est ce qui se passe après que Galilée et Descartes. Galilée et Descartes pensent que si Dieu a parlé et si Dieu a donné au monde une forme d'intelligibilité, elle ne peut passer que par le langage physico-mathématique.
Tout à fait. Et c'est donc un langage scientifique, algébrique, qui réduit la réalité du monde à la quantité.
Qui réduit exactement à tout ce qui est pondérable.
À tout ce qui est pondérable,
tout
mesurable.
Ce qui est mesurable, quantifiable, tout ce que vous voulez. Et le reste, on ne dit pas, le reste, on ne sait pas. On dit, le reste n'existe pas. C'est là où ça devient extrêmement préjudiciable à l'art astrologique, mais pas seulement à l'art astrologique. C'est préjudiciable à toute la pensée, aussi bien à la pensée religieuse que à la pensée métaphysique, que toutes les formes de morale aussi.
Hein. Oui, on pourrait même dire littéraire et esthétique et artistique.
Tout à fait.
De la même manière.
Tout à fait, c'est une réduction, c'est le début de la décadence de l'Occident, ça passe par Descartes. Alors qu'on imagine comme étant le génie qui a prophétisé les temps modernes, effectivement ces temps modernes, dans la mesure où on les voit de plus en plus éloignés de la source de vérité, sont des temps de dégradation, pour moi en tous les cas, et pour les traditionalistes en général. Pour tous ceux qui ont intérêt à ce que ce modèle perdure, c'est un modèle prodigieux. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne force et puissance sur la nature. Il s'agit plus de la comprendre et de s'insérer dans un ordre, mais il s'agit de dominer cette nature de telle façon que nous puissions en tirer le plus grand profit.
Oui, c'est la domination planétaire de la technique dont parle Heidegger et dont il a été un des analystes les plus lucides.
Tout à fait, oui.
Et c'est également,
je me demande si je ne le cite pas, Heidegger, dans mon livre, c'est possible.
Oui, et c'est également la manifestation la plus objective, si j'ose dire, du nihilisme contemporain dans tous les domaines.
Alors, nous sommes tout à fait d'accord.
Et d'ailleurs, la pensée cartésienne, avec le fameux cogito ou cogito, fait du sujet, de l'individu, le pivot, et donc de la subjectivité, c'est la métaphysique de la subjectivité, le pivot autour duquel va s'ordonner toute la pensée ou toute la non-pensée moderne. Donc vous...
Une subjectivité ramenée simplement à une démarche et à un principe logico-mathématique.
Tout à fait, et quantitatif, tout à fait. Et vous donc, comme philosophe et astrologue, Louis Saint-Martin, vous partez d'une conception de l'univers qui est complètement différente. Est-ce que vous pourriez, et c'est évidemment un vaste chantier, mais c'est un chantier que vous développez avec beaucoup d'argumentation dans votre ouvrage, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps au moins, en décrire les grandes lignes et nous dire en quoi cette pensée traditionnelle du cosmos, de l'univers, est toujours valide ? Quels sont ses présupposés ? Quelles sont ses méthodes ? Et en quoi l'astrologie où l'astrophilosophie s'intègre dans cette vision du monde.
On peut essayer de résumer les choses en disant que tout émane d'un principe. Alors ce principe, on peut l'appeler l'absolu. On peut l'appeler le réel voilé, comme d'Espagna. On peut l'appeler de multiples façons. J'en donne quelques-unes en citant quelques auteurs dans mon livre. Mais il y a un principe, il y a une intelligence au départ qui pose les conditions, les prémices de cette manifestation, de cette création. Même si on n'accepte pas le mot création dans certains auteurs, par exemple, il n'y a pas de création chez Plotin, mais il y a quand même un principe organisateur. Et ce principe organisateur imprime sa marque, imprime sa logique, si je puis dire, logos, raison et parole, dans tous les degrés de manifestation de la réalité. Donc il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs manifestations de la réalité, il y a plusieurs niveaux d'appréhension de cette réalité, et le niveau physico-mathématique en est un, qu'il ne faut pas exclure.
Bien sûr.
Puisqu'il nous donne maîtrise sur la nature. Mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas oublier. Et l'astrologie est un de ces niveaux d'interprétation, plutôt de mise en contact avec un niveau d'interprétation et de compréhension de l'ordre universel. Vous parliez tout à l'heure de science, et je faisais remarquer à mes amis là, pendant le repas, que le mot science, dans la doctrine traditionnelle, est jusqu'au XIIe, XIIIe siècle à peu près. Et le mot science tel que nous l'utilisons maintenant, quand on nous dit par exemple à moi, astrologue, « Mais monsieur, vous n'êtes pas scientifique », je dis « Mais heureusement que je ne suis pas scientifique !» Parce que la science se réduit, comme je le disais, au domaine physico-mathématique et à la prise de possession du monde, alors que la science, pour un traditionnaliste, pour Platon, pour, et même pour un Aristote et pour un saint Thomas, pour toutes les pensées que nous pouvons, Brandoni, l'Aréopagite, que sais-je, moi, tous ceux que je pourrais citer entre moins 6 avant Jésus-Christ et plus 1400 après Jésus-Christ, il s'agit d'une science intérieure, de quelque chose qui nous permet, en comprenant l'ordre du monde, de nous y insérer avec autant d'harmonie que possible pour atteindre à notre perfection, pour atteindre à notre accomplissement qui ne peut se faire que dans l'ordre du bien. Et le bien, c'est ce qui est au sommet.
Et justement, dans cette interrelation, en quelque sorte, du cosmos et de l'homme, dans lequel l'homme occupe toute sa place, toute sa part.
Forcément, puisqu'il est dans le cosmos.
Voilà, il en fait partie, bien sûr. Il y a un processus d'analogie, on va y venir de manière plus précise, bien sûr, entre le microcosme et le macrocosme.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'insertion de l'homme comme monde singulier et collectif à la fois se fait dans un univers beaucoup plus vaste, dans lequel s'insère un certain nombre de correspondances.
Oui.
Alors, Pierre-Marie Sigaud, il y a un lien entre, en dehors du lien d'éditeur, bien sûr, à auteur, qui est tout à fait évident, mais il y a un lien encore plus profond entre vous et Louis Saint-Martin, c'est votre admiration commune pour Jean Borella. Vous avez publié, Pierre-Marie Sigaud, plusieurs ouvrages de Jean Borella, et il se trouve que Jean Borella est le préfacier du livre de Louis Saint-Martin, Sagesse de l'astrologie traditionnelle, et Louis Saint-Martin, vous citez d'ailleurs de manière très, très régulière Jean Borella. Pourriez-vous... Pierre-Marie Sigaud, nous dire en quelques mots, non pas nous présenter la pensée de Jean Borella, évidemment ce serait une autre émission, mais nous dire en quoi, de manière spécifique, la pensée de Borella est utile pour comprendre, au moins formellement, le monde traditionnel et le monde de l'astrologie traditionnelle.
Oui, alors le travail de Jean Borella a été justement consisté à, d'une certaine façon, à rendre son intelligibilité au cosmos et au microcosme dans le macrocosme et à rétablir la portée, la dimension ontologique et graduelle, hein, par niveau, du réel, la dimension ontologique du symbole, c'est-à-dire que tout niveau avec ça débouche évidemment sur les notions de correspondance et d'analogie. Voilà. Et en même temps, Borella a très bien montré, c'est dans la crise du symbolisme religieux, a très bien montré que le symbole n'était pas un signe arbitraire, n'était pas une création langagière ou imaginative. Le symbole renvoie à une réalité supérieure, à des degrés de réalité supérieure, jusqu'au principe ultime, jusqu'au principe suprême, dans un rapport ontologique. Et alors évidemment, ça s'applique à la cosmologie, et c'est justement Jean Borella dans la crise du symbolisme religieux qui a bien montré l'articulation, et également un autre lecteur de Jean Borella, qui est le professeur Wolfgang Smith, dont j'ai publié Sagesse de la cosmologie ancienne.
Très beau livre également,
qui a bien montré l'articulation de cette rupture galiléo-cartésienne, changement de vision du monde, réduction de cette vision du monde.
Atrophie,
et perte de contact avec les niveaux supérieurs de la réalité. Or, l'astrologie s'inscrit très clairement dans cette perspective des correspondances et de l'analogie entre les différents degrés de réalité. Et du reste, Louis Saint-Martin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai publié son excellent livre, c'est qu'il se réfère, lui-même a été très marqué par la pensée de Jean Borella et par la pensée, le travail de Wolfgang Smith.
Que vous citez d'ailleurs Louis Saint-Martin,
oui,
dans
beaucoup,
votre
travail,
bien sûr, lui aussi, bien sûr.
Avec cette fameuse distinction entre monde corporel, monde physique, physico-mathématique, et évidemment les niveaux supérieurs de la réalité. Alors, on est dans une perspective platonicienne et néo-platonicienne.
Tout à fait. C'est d'ailleurs Plotin, vous consacrez, voilà. Vous avez déjà donné le nom de Plotin, Louis Saint-Martin, dans votre intervention en ce moment, mais Plotin occupe une place prépondérante dans votre réflexion.
Oui, parce que justement, il a écrit sur l'astrologie.
Mm-hmm. Hein,
et qu'il y voit, d'abord, il la reconnaît comme art, et en même temps, il nous indique bien qu'il ne s'agit pas de voir, et là, ça répond à la science, il ne s'agit pas de voir dans les différents niveaux d'appréhension du réel, essentiellement le système solaire avec les planètes, etc., des agents actifs, des causes au sens physique du terme sur nos destinées, mais des signes. Hein, le système solaire reflète un langage. Il nous indique quelque chose sur un moment du monde dans lequel nous nous intégrons. Voilà. Et c'est à partir de cette intégration dans un lieu, un espace donné, que nous avons peut-être une destinée, enfin peut-être certainement une destinée à accomplir. Mais pour autant que nous comprenions cet héritage qui nous vient, qui nous est reflété, qui nous est indiqué comme une langue par ce que nous voyons dans le ciel. Mmh. Il n'y a aucune relation du point de vue astrologique, hein. J'entends bien. Aucune relation entre ma destinée et ce qui se passe au moment de ma naissance. Hein. Simplement, ce qui se passe au moment de ma naissance m'indique ce dont j'ai hérité.
C'est très intéressant parce que vous soulevez là, Louis Saint-Martin, la question de la liberté et du déterminisme.
Bien sûr, c'est essentiel.
C'est essentiel.
Essentiel.
Alors précisément, en quoi l'astrologie n'est pas ne signe pas, en quelque sorte, ne manifeste pas plus exactement une destinée au sens où elle serait intangible et en viendrait à nier toute possibilité de libre arbitre chez l'homme. Comment s'articule cette...
C'est parce que... On utilise des mots qui se situent sur des plans différents. Lorsqu'on parle de liberté, tout le monde pense « je suis libre de faire ce que je veux ». Oui, pourquoi pas? Mais enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je suis pas libre de voler. Je suis pas libre de nager comme un poisson. En tous les cas, pas très longtemps. En ce qui me concerne, il y a un tas de choses que je ne suis pas libre de faire. Je ne suis pas libre de pas aller à mon travail tous les matins à 9h si je veux être payé à la fin du mois. Bon, cette liberté vue de cette façon au ras des pâquerettes est insupportable.
Hein. C'est celle caprice, qu'on... Oui.
Pardon ?
C'est la liberté du caprice.
En fait, c'est la
caprice.
Liberté de notre monde moderne, oui, hein, qui est entièrement basée là-dessus.
Tout à fait.
Sur le caprice, le plaisir et l'illusion d'une liberté alors que nous sommes enfermés dans un tissu de détermination qui nous oblige à nous comporter comme des robots. Il y a une autre forme de liberté. C'est celle que je prends lorsque, ayant compris quel est le sens de ma destinée, je puis interagir ou intervenir pour décider de ce qui, dans ce qui m'est proposé, est bien et mal. Et là, ça se situe sur le plan moral, et c'est ça le libre arbitre. Hein. Nous sommes ici, boulevard...
Murat.
Hein, si je veux aller à la Bastille... et que j'ai un besoin impératif à la Bastille, vous allez sortir une carte et me montrer toutes les différentes stations de métro que je devrais prendre et les différents itinéraires qui se proposent à moi. Bon. Je vais en choisir forcément un. Ou je ne vais pas en choisir du tout. Après tout, je peux renoncer d'y aller. Bon. Mais on est parti du principe que j'étais obligé d'y aller. Donc, si je choisis un de ces itinéraires, est-ce que je dirais que vous êtes intervenu sur ma liberté ? Mais pas du tout. Vous m'avez donné une indication et moi je la suis ou je ne la suis pas. Et puis je peux essayer d'inventer un nouvel itinéraire, quitte à me perdre. Mmh. Bon, ben voilà le rôle de l'astrologie. Qu'est-ce que tu possèdes au départ ? Elle me l'indique. C'est un héritage d'astrologie. Le thème natal d'une personne est un héritage par lequel il va devoir, à travers lequel il va devoir s'exprimer, qui détermine un certain nombre de caractéristiques tempérementales, comportementales, intellectuelles, affectives, tout ce que vous voulez. Hein. Mais à partir de ça, je peux faire quelque chose de génial, comme je peux faire quelque chose de tout à fait commun. Beethoven naît, il a une famille de syphilitiques et d'alcooliques. On peut se dire, ben, il va suivre le chemin de ses parents, et puis Beethoven va devenir un des plus puissants génies de l'histoire musicale occidentale. Mmh. Bon. Donc, à partir du même thème, on peut avoir des destinées fort différentes, mais qui obéissent tous à une structure qui n'est pas toujours facile de voir, mais que l'astrologue, lui, doit pouvoir, dont il doit pouvoir rendre compte. C'est alors, ça mon travail.
Alors justement, oui, on va en parler de votre travail, Louis Saint-Martin, de manière peut-être un peu plus pratique et donc moins théorique. Je signale également que vous venez de publier aux éditions L'Harmattan, dans une autre collection, Pronoia, une initiation à l'astrologie comparée, sous-titré « Parler le langage des correspondances aujourd'hui » et qui forme un diptyque, en quelque sorte, tout à fait bien indiqué, avec la sagesse de l'astrologie traditionnelle. Alors précisément, dans votre métier, on va revenir sur les questions théoriques, évidemment, on est loin de les avoir épuisées, ça va de soi, mais dans votre métier, la constitution d'un thème astral, comment procédez-vous ? Ça fait 30 ans que vous exercez l'astrologie, je crois, vous êtes un des... 40 ans que vous exercez, donc vous êtes un des astrologues les plus connus internationalement. Comment procédez-vous de manière très concrète ? Comment ça se passe ?
Oh ben vous partez d'un lieu et d'un temps donné. Le lieu, c'est les coordonnées géographiques, latitude, longitude, Le temps, eh bien, c'est l'heure locale, c'est-à-dire l'heure au clocher de votre naissance. Alors ce temps doit se calculer puisque nous vivons dans des fuseaux horaires où on a égalisé les temps. Donc il faut revenir à l'heure GMT, à partir de l'heure GMT qui est l'heure de base pour le calcul des heures à la surface du globe. On remonte vers le lieu où vous êtes né, à l'ouest ou à l'est, et on ajoute le nombre de minutes, on les retranche, qui permettent d'avoir l'heure au clocher de votre lieu précis de naissance. D'accord. À partir de ces deux coordonnées, on obtient une vue de l'état céleste du moment où se trouvaient les planètes. Je dirais planète par sa simplicité de langage. Le Soleil n'est pas une planète, la Lune n'en est pas une non plus. Nous, astrologues, nous le savons, mais il semblerait que certains pensent que nous ne le savons pas. Bon, donc on regarde un petit peu où se trouvent dans le ciel ces différentes planètes. Et ces différentes planètes vues à partir de votre point de naissance. L'horizon, le ciel que j'ai au-dessus de moi au moment de ma naissance n'est pas le même, pour le même moment, de celui qu'aura un petit Chinois qui met au même moment.
Bien sûr.
D'accord. Mm-hmm. Hein, voilà. Et là, donc, il y a un double système d'intégration des planètes dans un plan. Il y a le plan zodiacal, avec les 12 signes bien connus. Et puis, il y a le plan terrestre, avec les 12 maisons, 12 secteurs, qui permettent une deuxième orientation, beaucoup plus précise et beaucoup plus centrée sur la personne et sur le lieu. D'accord.
Très bien.
Bon. Alors, à partir de là, on me dit... Je prévois l'objection que vous pourriez me faire, peut-être, que c'est votre travail.
Allez-y, devancez moi, mais je ne suis pas sûr
d'avoir bien des choses à vous objecter. Mais si, on a tous le même, on est tous à peu près au même moment, là, peut-être une vingtaine de personnes doivent avoir exactement la même destinée. Et j'ai dit non, vous avez le même héritage, mais vous n'avez pas la même destinée. Le ciel vous donne une forme. On va prendre un langage aristotélicien que notre ami va bien comprendre. Mais il y a un matériau, une matière. Cette forme va s'intégrer, va former ou organiser une matière. Cette matière, c'est mon histoire. C'est l'histoire dans laquelle moi, en tant qu'individu, j'interviens. Derrière moi, il y a toute une lignée ancestrale. Il y a aussi une culture, il y a une éducation, il y a un milieu, il y a un moment historique qui font que cette forme va se manifester, va pouvoir se manifester dans la réalité, d'une manière différente, parce que ces matières sont différentes, même si on est tous nés au même moment. Mais chez chacune de ces personnes, on pourra déterminer une structure commune à travers le thème.
Très bien.
Et c'est pourquoi, à partir d'un thème, on peut faire quelque chose de génial, qu'on peut faire quelque chose de très commun, comme je disais tout à l'heure. Et la tâche de l'astrologue, la véritable tâche de l'astrologue, c'est de montrer à son consultant ce qu'il peut faire de son thème. Et pas de lui dire, vous êtes condamné à faire ceci ou cela.
Bien sûr.
Ce que font beaucoup de voyants et d'astrologues.
Bien sûr, oui.
Parce qu'ils n'ont pas la formation qui est nécessaire.
Très bien. Alors, Louis Saint-Martin, vous avez indiqué la présence d'un autre invité dans notre studio, c'est Paul Ducaille. Paul Ducaille, bienvenue.
Merci.
Vous avez écrit très récemment un très très bel article dans la revue Philite, qui elle-même est une excellente revue, que je conseille à tout le monde, bien que j'imagine qu'un grand nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie la connaissent, revue généraliste, culturelle, littéraire,
de philosophie,
philosophique.
De littérature et aussi de cinéma.
Essentiellement. Et donc vous avez consacré un bel article de critique au livre de Louis Saint-Martin. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette discipline et pourquoi l'avez-vous perçu, ce livre-là, d'une manière aussi sensible? Quel est votre propre parcours brièvement? Comment expliquez-vous cet attrait?
Alors, je dois cet attrait, cette découverte plutôt à l'astrologie telle qu'elle est présentée par Louis Saint-Martin à mon ami Pierre-Marie Sigaud, éditeur donc de ce livre, la collection Théoria de l'Armata. Il faut dire qu'à l'origine, je suis lecteur de Jean Borella.
Ah, il fallait s'en douter avec Pierre-Marie Sigaud.
Bien sûr.
C'est ce qu'on appelle un complot.
Un complot pour Élien.
Et j'ai été vraiment séduit par la lecture de ce livre. Je ne vous cache pas qu'au départ, avant la lecture de ce livre, je me disais, bon, ce livre est sans doute un peu, je dirais, tendancieux et pas très sérieux. En fait, à chaque page de Louis Saint-Martin, j'étais toujours plus surpris. Et ce que je dégage dans l'article que j'ai rédigé à Philite,
Que vous trouverez sur Internet d'ailleurs. Voilà. Je le dis pour les auditeurs, l'article est dans le Libre Accès sur Internet et c'est une très bonne introduction à l'ouvrage de Louis Saint-Martin.
Voilà, qui s'intitule « L'astrologie traditionnelle ou la sagesse du cosmos ». Parce que la lecture que j'ai dégagée de l'ouvrage de M. Saint-Martin, c'est une lecture en fait épistémologique. Je me rends compte qu'avec l'astrologie traditionnelle, c'est-à-dire qui n'est pas conditionnaliste ou physiste, mais proprement philosophique ou spirituelle, eh bien, dans le cadre de cette astrologie-là, c'est une autre épistémologie qui se dégage, qui ne s'intéresse pas à la nature physique qu'elle laisse aux physiciens, c'est leur travail, mais qui s'intéresse à la nature sémantique. Et ce que je peux faire remarquer à nos auditeurs, qui eux aussi découvriront sans doute pour beaucoup l'astrologie avec la lecture de ce livre, c'est que, par exemple, quand un physicien parle de la réalité, il parle de quelque chose que lui-même ne peut pas mesurer, ne peut pas peser. Donc, tout le discours scientifique, même moderne, repose sur des axiomes qui, eux, sont des principes, ce que Aristote appelle les principes premiers indémontrables, et que, précisément, les sciences traditionnelles, telles que l'astrologie, prennent en charge. C'est une approche proprement qualitative du réel.
Tout à fait.
C'est ça qui est passionnant dans le livre de Louis Saint-Martin, qui est bien mis en avant autour de différentes conceptions philosophiques.
De même qu'il est très au point, très au fait, sur la physique la plus moderne, qui est la physique quantique.
Oui, hein,
oui, je vous en prie.
Non, qui ouvre des perspectives tout à fait bienvenues. Pardon, des perspectives tout à fait bienvenues dans le domaine de la pensée traditionnelle et notamment dans le domaine de la pensée astrologique. Hein ? Un univers qui nous montre que les certitudes les mieux établies par la science pondérable et mesurable que nous disions sont complètement évanouies.
C'est un bouleversement là auquel nous assistons aussi.
Total.
Et un bouleversement qui peut augurer d'un renversement et d'un retour à la pensée traditionnelle.
Mais
pourquoi y contribuer ?
Qui induit les éminences même du monde scientifique, les plus grands penseurs. Je ne parle pas aux petits besogneux de la physique et de la mathématique. Je parle aux grandes pensées comme celle de Einstein, comme celle de Heisenberg, comme celle de Eddington, à concevoir une grande pensée qui est organisatrice des phénomènes. Il y a les frères Bogdanov qui ont écrit un bouquin qui s'appelle « Lire dans la pensée de Dieu ». Ils prennent comme ça différentes expériences ou différents personnages de la science moderne et ils montrent que tous s'efforçaient de lire dans la pensée de Dieu. Donc, ils reconnaissent tous qu'il y a Dieu. Bon, alors, quelle que soit la forme qu'ils lui donnent, ça c'est tout à fait autre chose. Hein. Un absolu. C'est ce qu'appelle d'Espagnat, alors je citais son réel voilé. Hein, cette réalité d'un domaine de la microphysique qui s'ouvre sur tant d'incertitudes, comment s'explique-t-il avec la certitude que nous avons au niveau macroscopique ? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a un principe organisateur. Et ce principe organisateur, c'est celui qui organise aussi le fait que l'astrologie ait quelque chose à nous dire sur nous-mêmes.
C'est très important ce que vous dites, Louis Saint-Martin, parce que vous-même, vous avez défini, entre autres choses, l'astrologie comme un art, mais vous parlez également de contemplation. Enfin, il y a une forme de contemplation, c'est un terme éminemment mystique dans l'astrologie. Et on pourrait presque dire contemplation du signe, contemplation du symbole, contemplation du logos, pourquoi pas, contemplation du cosmos en ce qu'il est ordre et beauté, mais nous sommes dans un registre qui est éminemment spirituel.
Mais bien sûr, chacun des thèmes est un rayon de cette pensée universelle, de cette pensée d'origine, telle que l'a présenté tout à l'heure Monsieur Ducueil. Et chacun de nous, nous sommes en fait un rayon, une émanation, pour parler comme Plotin. Donc, lorsqu'on est chrétien comme moi, on ne parlera pas d'émanation, on parlera de création. Et on dira que chacun de nous est constitué à l'image, à la ressemblance du Logos. De Dieu. Bon, mais chacun de nous a quelque chose d'essentiel à dire sur ce monde et sur le sens de la destinée humaine. Mais encore faut-il y mettre tous les moyens. Et là, je voudrais vous lire quelque chose de Hans Urs von Balthasar, pas toujours très facile à prononcer, qu'on peut rapporter à l'astrologie. D'ailleurs, il en parle nommément. « Nombreux sont ceux, dit-il, qui jouent ici à l'apprenti sorcier et que leur pratique de dilettante prennent dans les filets d'une texture existentielle qui les prive de la liberté du chrétien devant Dieu, essentielle avant toute chose aux yeux des pères de l'Église. Le trafic florissant que font la presse à sensation et la littérature de bas étage avec des horoscopes parfaitement inadaptés au cas de particulier achève de substituer à la foi authentique une superstition hallucinatoire, alors que, et là c'est le plus important parce qu'il reconnaît l'astrologie là, alors que dans ce domaine, il faudrait absolument, en plus d'une formation spécialisée, une sérieuse responsabilité morale, comme un sixième sens, contemplation, et un flair sûr, contemplation encore, pour les limites du communicable, ainsi qu'une réserve respectueuse devant la voie religieuse choisie par l'individu. C'est une reconnaissance de l'astrologie et en même temps une précision des dispositions d'esprit et d'âme à avoir quand on veut être astrologue.
C'est très important, c'est une parole de poids. Je rappelle que Hans Urs von Balthasar, mot en effet non difficile à prononcer, est un des plus grands théologiens catholiques du XXe siècle et un des plus grands penseurs du catholicisme et au-delà d'ailleurs, puisqu'il s'est intéressé à des domaines très variés, y compris littéraires, un des plus grands penseurs et essayistes et philosophes du XXe siècle. C'est donc une référence très importante. Vous avez à cœur également dans votre ouvrage, Louis Saint-Martin, puisque vous évoquez cette question, de vous affirmer votre christianisme, enfin votre catholicisme, votre le point de vue confessionnel, comme on disait autrefois, d'où vous parlez. Il y a eu une grande méfiance de la part d'un certain nombre d'autorités ecclésiastiques à l'endroit de la discipline astrologique. On pourrait la faire remonter à l'hostilité, à l'endroit de la divination dans l'Ancien Testament, bien que l'astrologie, nous l'avons vu, vous l'avez dit à plusieurs reprises, n'a pas grand-chose à voir avec ce point-là. Vous vous efforcez de battre en brèche ce discours, à tel point d'ailleurs que la plupart de vos chapitres sont ponctués par des citations d'Étienne Gilson. Donc, quel discours pourriez-vous tenir, en dehors de cette citation évidemment très importante de von Balthasar, mais quelle argumentation pourriez-vous apporter pour que les auditeurs qui sont marqués par la pensée catholique et donc une certaine méfiance originelle à l'endroit de l'astrologie puissent modifier leur regard? En quoi l'astrologie, telle que vous la pensez, est tout à fait admissible? Au fond, en quoi ne sent-elle absolument pas le soufre?
Là, vous titillez mon Mercure en Scorpion qui fait de moi un polémiste né.
Ça se sent dans votre livre. Il y a une part polémique qui est assez vive.
J'ai écrit une longue lettre à Monseigneur, comment s'appelle-t-il, l'évêque d'Avignon, qui avait en 2008 fustigé les astrologues, enfants de lumière. C'était ses vœux, je crois, pour le 31 décembre 2008. Et donc, je vais la publier, cette lettre. Je l'évoque un petit peu dans mon livre, mais je vais la publier in extenso. Il y a soit de la méconnaissance, soit de l'hypocrisie, soit les deux, dans l'attitude de l'Église catholique par rapport à l'astrologie. Méconnaissance en pensant que l'astrologie est un système de prévision toute tracée qui détermine l'orientation, la volonté et le libre arbitre du sujet. Je viens d'en parler, je n'y reviens pas. Hypocrisie dans la mesure où l'astrologie a accompagné l'Église catholique tout au long de 14 siècles de coexistence commune. Nous avons 22 papes qui avaient un astrologue à leur service. Les systèmes de domification que j'expliquais tout à l'heure, la capacité à orienter un lieu donné par rapport au ciel, sont tous inventés par des moines. Regio Montanus, Campanus, il m'en manque le troisième, les noms propres m'échappent très souvent, sont des pseudonymes de moines qui ont inventé les systèmes de domification qui permettent l'organisation d'un thème natal. Ce que je voulais dire ensuite, c'est que si vous allez, par exemple, à Arles, à Maguelone, et que vous contemplez le fronton des églises romanes ou des cathédrales romanes, vous y trouverez soit les douze signes du zodiaque, soit plus généralement les quatre veilleurs, les quatre vivants. Hein, il s'agit des quatre évangélistes figurés par chacun des quatre signes fils du zodiaque. Le lion, le scorpion, le lion Saint-Marc, hein, Venise, le scorpion Saint-Matthieu et Saint-Luc. Donc il y a l'astrologie, l'église primitive, l'église traditionnelle, avait intégré à la fois la sagesse grecque. Antique, grecque, mais elle avait intégré aussi, on parlait tout à l'heure d'Origène, on parlait d'Eusèbe de Césarée, de tout un tas d'apports, tous les courants gnostiques, hermétistes, qui, sans s'éloigner ou sans entrer en contradiction avec la doctrine chrétienne, pouvaient l'enrichir de l'intérieur. Il n'y a pas une révélation qui vient nous apprendre quelque chose de nouveau, entièrement nouveau, et puis le rejet du reste aux catacombes de l'histoire. C'est faux, c'est faux. Et voilà ce que dit Pic de la Mirandole, hermétiste entre tous, enfin, un des plus brillants esprits du XVIe siècle, je crois. Oui. « Sur mon front, je porte le nom de Jésus-Christ, et je mourrai avec joie pour la foi que j'ai en lui. Je ne suis ni magicien, ni juif, ni israélien, ni hérétique. C'est à Jésus que va mon culte, c'est sa croix que je porte sur mon corps. » Et moi, j'en dis autant à l'évêque d'Avignon, je suis aussi catholique que vous, mais je ne suis pas évêque, et je reste astrologue. Et vous tâchez d'être un bon évêque catholique, ce n'est pas si facile de notre époque.
Non, on pourrait même dire que la pente est plus négative que ça, oui, oui, ça, c'est certain. Oui, on mesure effectivement ce que l'Église catholique, au moins moderne, elle aussi, du fait de sa modernité ou de sa modernisation, a perdu dans l'ordre spirituel, avec, en délaissant et en rejetant ses savoirs et ses pensées traditionnelles.
Je dirais même dans l'ordre substantiel, parce que c'est d'abord de la doctrine qu'elle s'est délestée, et ensuite de tout ce qui venait alimenter cette doctrine. Robert Spiemann, qui est un éminent professeur de philosophie et qui a été un conseiller de Benoît XVI, disait dans sa préface à un livre sur les 22 arcanes du tarot, il évoquait la tradition déterminée du voir, d'un voir qui dans notre culture est souvent atrophié de façon effrayante. Il s'agit d'un voir ayant pour objet des phénomènes primitifs et des similitudes essentielles. Ce voir ne peut pas, ne doit pas remplacer la science ni la foi chrétienne. Bien plutôt en est-il la racine commune. S'il se rabougrit, l'une et l'autre dégénèrent nécessairement. L'une devient destructrice, l'autre devient exsangue.
Oui.
Notre culture est destructrice et notre Église est exsangue.
Oui, le constat est tout à fait est impitoyable, mais tout à fait réaliste.
Par un professeur qui est un conseiller de pape.
Absolument. C'est ce Robert Spiemann qui a écrit sur Louis de Bonal également, qui a publié un ouvrage sur Louis de Bonal.
Oui, oui.
C'est lui, hein, d'accord.
C'est le plus grand philosophe catholique allemand vivant.
Oui.
Il doit avoir autour de 95 ans, 94 ans, c'est maintenant très âgé. Je crois qu'on peut dire que, en tout cas dans le domaine germanique, Spemann et Urs von Balthasar sont les plus grands. Voilà. Spemann, lui, est un laïc, il est un professeur, c'est un universitaire, hein, dont l'autorité est quand même très largement reconnue. Il a été traduit en français, pas beaucoup, il n'est pas très connu, mais...
Quelques traductions, effectivement, mais peu répandues, je crois. Un recueil d'entretien, me semble-t-il, également.
Oui, qui était paru chez Ora Decima, je crois.
Voilà, quelque chose comme ça, et peut-être un ouvrage aussi chez Dominique Martin Morin.
Mais il reste encore, sans doute, pas mal à traduire.
Oui, en effet. Paul Ducaille, nous avons, tout à l'heure, nous avons entendu, mais peut-être de manière un peu insuffisante, pourriez-vous poursuivre votre lecture de livre de Louis Saint-Martin et nous expliquer encore de manière plus approfondie, cette herméneutique, ce sens du signe auquel vous avez été sensible?
Alors, précisément, Louis Saint-Martin vient de parler du problème de la foi en matière d'astrologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que précisément, l'astrologie traditionnellement comprise, loin d'exclure la foi, l'inclut, parce que précisément l'épistémologie qu'elle mobilise est une épistémologie, en fait, pré-galiléenne. Et c'est ça qui est très audacieux la démarche de Louis Saint-Martin, c'est que finalement, on peut dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que vous défendez en fait l'équivalence des hypothèses que défend justement Andreas Osiander dans sa préface au livre de Copernic, en 1453. Cette théorie qui défend à la fois la légitimité de l'approche galiléenne, héliocentrique, et ptoléméenne, qui est géocentrique. Voilà. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce que le géocentrisme traditionnellement compris? Ce n'est pas une théorie naturaliste, c'est une théorie géosymbolique qui signifie quelque chose de supérieur, à savoir la centralité spirituelle.
C'est ça.
Et l'approche précisément astrologique, astrophilosophique que défend Louis Saint-Martin, réhabilite le sujet dans la démarche de connaissance. Exactement. Le sujet reste central. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs, Mircea Eliade le relève dans ses études, la caractéristique de la centralité du monde, c'est-à-dire ma maison est au centre du monde, de même que le centre spirituel, par exemple Jérusalem, pour les chrétiens, la Mecque, pour les musulmans, sont
des centres
du monde. La gare
de Perpignan pour Dali.
Voilà, tout à fait. Eh bien, tout, précisément, tout participe de la responsabilisation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est au centre du monde, il n'est pas le centre du monde, c'est ça à quoi il faut faire attention.
Eh oui.
Il est au centre du monde et de ce fait, il est responsabilisé, il se sent comme participant, comme étant inclus dans une réalité, et ça trouve tout à fait son actualité aujourd'hui dans les problématiques écologiques. D'où vient la grave crise écologique aujourd'hui ? Eh bien, du fait que l'homme a été exclu de la centralité en fait, spirituelle par laquelle il se sentait, il se savait participer d'un ordre plus grand que lui.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est en même temps ce point de vue qui exprime que chacun de nous, par notre centralité spirituelle, hein, je trahis pas votre pensée, peut avoir une destinée différente de celui qui est à côté de moi, le même thème, mais qui va se déterminer d'une manière différente, tout en obéissant à la même structure, mais peut-être en vivant de cette structure ce qu'il y a de moins recommandable, alors que l'autre vivra ce qu'il y a de plus recommandable. C'est très amusant de voir, par exemple, de comparer, moi j'ai beaucoup de comparaisons, oui, d'ailleurs le mot se, est dans, des thèmes par exemple d'assassins et des thèmes de juges.
Très intéressant, oui. Ah, alors, oui, par exemple, donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple en vous citant « Les astres inclinent, mais ne déterminent pas ».
Oui.
Voilà. Alors, illustrez cette formule-là, qui est de vous.
Allez, écoutez, je fais que l'illustrer depuis tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, hein, mais avec le juge et l'assassin.
On nous donne un schéma de vie. Hein. C'est la partie... Voilà, il y a quelqu'un qui a bien cerné, c'est Pascal Idée, que vous connaissez peut-être, qui a écrit tout un tas d'ouvrages de formation. C'est un prêtre, il est à la fois théologien et il est philosophe. Et il fait la distinction entre le psychique et le spirituel. Hein. Ce que le thème natal montre, c'est les déterminations psychiques qui sont les nôtres au départ. Comme la couleur de nos yeux, la couleur de nos cheveux, notre taille, nos constantes biologiques, notre héritage génétique, etc., etc. Mais le spirituel, lui, il est libre. Et c'est le spirituel qui doit conduire le psychique. D'accord ? Donc, chez le juge et l'assassin, il y a deux niveaux psychiques qui sont reflétés par la carte du ciel, mais le spirituel n'est pas le même. La prise en compte de l'héritage n'est pas faite de la même façon. Elle n'obéit pas aux mêmes impératifs ou aux mêmes désirs.
Alors, dans cette, vous avez parlé, Paul Ducaille et Louis Saint-Martin, de la question du sujet et de la centralité du sujet, non pas au sens cartésien, pour le coup, au sens où
absolument,
le sujet serait,
oui,
se ferait, comme vous avez dit.
Serait le centre, justement.
Voilà, serait le centre, mais pas du, oui, tout. Et dans cette relation que vous évoquez, Louis Saint-Martin, du sujet et de l'objet, et cette conception moderne d'une distinction entre les deux, un sujet tout-puissant se focaliserait sur un objet qui lui serait complètement étranger et qui l'examinerait sous ses coutures, et donc avec tout ce que l'on a dit concernant le mécanicisme scientiste, si l'on veut. Si l'on a une autre conception du sujet, précisément, et des relations du sujet et de l'objet, quelle est la part de la pensée de l'intuition dans ce domaine ? Vous évoquez l'intuition comme mode de connaissance, au fond. Borella le fait également, c'est Guénon, n'en parlons pas. Comment peut-on, Paul Ducaille, Pierre-Marie Sigaud, les questions sont destinées à tous, bien sûr. Hein. Cette intuition, en quoi l'intuition, comme mode de savoir, comme appréhension du monde, est-elle pertinente et peut-être même un remède à l'endroit de la sécheresse scientiste et de cette atrophie dont nous parlions tout à l'heure ?
Elle est essentielle dans la mesure où l'intuition, intellectus, nous, pour les plotiniens, désigne cette capacité qu'a l'esprit, qui est en communion avec toute chose, qui est orientée vers toute chose, ce que les anciens appelaient l'intentionnalité, cette capacité à découvrir le monde, à le comprendre, à lire à l'intérieur des choses, intelligere, c'est lire dedans. Mm-hmm. Hein. Donc l'intuition est essentielle, d'ailleurs, c'est pas pour rien que Bergson la met très au-dessus de l'intelligence, en tous les cas à côté et à part. L'intelligence, pour lui, est purement technicienne. Elle sert à agir et à faire. Bon, oui. L'intuition, c'est comprendre. Et si je comprends le monde, je dois comprendre aussi les relations que j'entretiens avec lui.
Oui, vous êtes pris dans aussi.
Bien
comprendre,
sûr.
C'est prendre dans.
Absolument.
Et se savoir être pris dans.
Bien sûr. Intelligere, oui, on pourrait le prendre. Je suis pris dans le mouvement même, dans la substance même du monde. Et je dois non pas lui obéir, mais essayer de le faire, de faire en sorte que, grâce à mon intelligence et mon volonté, qui me font les substituts peut-être de la pensée d'origine, de l'absolu, de Dieu, du réel voilé, de tout ce que vous voulez, je peux peut-être améliorer ce monde en m'accomplissant moi-même. C'est ça ma tâche. Après tout, le Christ a bien mis le monde et les créatures sous la domination de l'homme. Non, c'est peut-être dans la Genèse.
Oui, c'est dans la Genèse. Oui.
Bon, on doit trouver des paroles chez le Christ qui ne doivent pas être contradictoires avec celles de la Genèse, à mon avis. Bon, donc nous avons quelque chose à faire dans le monde. Nous avons à le porter à son plus haut degré d'expression. Voilà, grâce à notre intelligence, à notre volonté, et cette capacité de lire dans les choses et de les respecter dans leur nature. Mmh. Et non pas simplement dans leur fonctionnement, dans leur pourquoi et pas dans leur comment.
Bien sûr. Et tout ceci débouche, me semble-t-il, puisque sur une vision au fond très, très poétique de l'existence, non pas évidemment au sens bêtement et platement romantique, au sens du romantisme le plus trivial bien entendu, hein, parce qu'au sens le plus élevé du mot, nous sommes en plein romantisme au contraire. Mais cela débouche sur une vision au fond très poétique du monde, dans laquelle s'insère à la fois... il y a une union, au fond, de la sapience ou du savoir et de la beauté. C'est donc une forme de... l'art que vous pratiquez, Louis Saint-Martin, c'est une forme d'art de la louange.
Ben oui, je peux très bien accepter ce mot, l'art de la louange. Loué soit le Seigneur qui m'a donné ce thème natal à vivre et d'en tirer le meilleur parti. Oui, dans le respect de sa gloire, hein, dans l'orientation vers le bien. Puisque toute intelligence... la nature humaine, au départ, est orientée vers le bien. C'est ça son bien suprême. C'est ça le sens de notre existence. C'est de réaliser autant qu'il nous est possible dans notre domaine ce parcours vers le bien. Le bien qui est le sommet de toute chose, d'où émanent l'intelligence et l'amour. L'intelligence et l'amour, dans le fond, c'est pas très, très différent.
Non, on peut même dire que dans certaines traditions, elles se superposent. Enfin,
la charité,
chez Dante, par exemple, l'intelligence et l'amour sont tout à fait superposés.
Enfin, on a fait de ce mot, on les a travestis, comme on l'a fait pour le mot science. Mais la charité, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas l'union de l'amour et de l'intelligence?
Bien sûr.
Prendre quelqu'un en charité, c'est faire pour lui ce qui est bien. Et pas forcément ce qui lui plaît ou ce qui me plaît.
Alors justement, pour en revenir à l'aspect plus pratique de votre métier, Louis Saint-Martin, lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous demande la constitution de son thème astral, et étant entendu, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire, quelle est la est-ce que vous vous permettez ou non, dans votre pratique, donc, de donner... des indications, simplement de donner des pistes sur celui qui vient vous voir ou celle qui vient vous voir. Quelle est j'allais presque dire d'un point de vue psychologique, quelle est votre action sur de ce point de vue-là? Avez-vous une finalité autre que purement descriptive? Usez-vous éventuellement d'une démarche d'orientation vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous, ou bien restez-vous dans la description du thème astral?
Une description du thème astral, je ne vois pas très bien quelle en serait l'utilité pour le consultant. Ce qu'il veut, c'est un point de vue extérieur sur lui. Et lui, il a déjà une expérience, il a un vécu. Sauf lorsque je fais des thèmes d'enfants, ce qui m'arrive très souvent, de faire des thèmes de bébés ou de petits-enfants, et les parents demandent des conseils éducatifs. Alors j'essaye de leur donner des conseils éducatifs en fonction de ce que recèle le thème. Mais ce ne sont que des conseils, hein, à mettre en parallèle avec les observations qu'eux-mêmes pourront faire sur leurs enfants, pour corriger le tir. Si moi j'ai affaire à quelque chose de purement symbolique, je n'ai pas l'atmosphère de la famille, je n'ai pas l'histoire. Je m'intéresse beaucoup à la psychogénéalogie. Hein. L'histoire familiale de chacun des deux parents. Donc, il faut que j'y aille avec discrétion et avec autant de tact et d'intuition que possible, comme vous le disiez, de flair.
Très délicat.
Donc, je donne des indications. Mais il m'arrive de donner des indications spontanées, mais comme ça jaillit. Par exemple, mon fils, un jour, me présente sa future femme. Bien sûr, je lui demande tout de suite quand elle est.
Ça peut être très gênant pour votre famille, hein, pour votre fils en particulier, et pour votre belle-fille, n'en parlons pas.
Si vous aimez les anecdotes, j'aime vous en donner.
Ah, volontiers, volontiers. C'est tout à fait bienvenu.
Vous allez voir.
Bien sûr.
Vous allez voir comment j'ai fait élire un président de la République française. Oui, vous allez voir. Donc, je montre son thème. Je dis, oh, quel beau thème d'institutrice tu as. Ah, institutrice, j'avais prononcé le mot qu'il ne fallait pas prononcer. Ah non, moi pas du tout. Moi je veux faire médiation culturelle, j'ai déjà prévu, elle avait prévu tout un cycle d'études où elle allait faire de l'animation culturelle, organiser des salons, que sais-je moi, je sais pas ce qu'il y a derrière le mot animation culturelle. Bon, d'accord. Et puis le temps passe, ils se marient, chacun continue. Mon fils, lui, s'est très vite commencé à travailler, en même temps qu'il faisait de la musique, ça le passionnait. Et quant à elle, elle a essayé de faire une maîtrise de médiation culturelle. Et puis elle s'est trouvée à faire un tas de petits boulots, parce que ça ne l'évoquait nulle part. Et puis un beau jour, elle a l'idée de faire le concours de l'institutrice.
Très intéressant, oui, oui.
Trois fois, elle l'a passé. Alors qu'elle était tout à fait au top, hein, du point de vue intellectuel. Mais il fallait dire les choses. J'ai dit, écoute, tu réussiras ton concours le jour où tu liras toutes les circulaires et que tu utiliseras leur langage. Ouais. Et à ce moment-là, tu vas être... Ça n'a pas raté. Elle est institutrice, elle est très heureuse et c'est une excellente institutrice. Alors un jour, j'ai dit, je ne t'avais pas dit que tu avais un excellent thème pour devenir institutrice. Elle a sorti de la pièce, elle a été voir ailleurs. L'anecdote...
Oui, comment avez-vous fait élire un président de la République française ?
Bon, je me suis pas mal occupé d'animation de clubs politiques ou d'associations à but, disons, politique ou philosophique. Non. J'avais créé même un mouvement légitimiste en France. Et en 93, le président d'un parti qui appartenait à la majorité me dit... non, pas la majorité, en 93, c'était encore Mitterrand. Il me dit, qui tu vois en 95 élu ? Puis à première vue, comme ça, c'est Chirac. Il me dit, tu te fous de moi ? Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, mais Chirac est à 8%, c'est un has-been. Je lui dis, écoute, je veux bien regarder un peu plus, mais tu sais, a priori... Étant donné ce que je vois en 95, dans son thème, c'est lui qui sera élu. D'ailleurs, si j'avais du culot, je lui écrirais pour le féliciter avant tout le monde. Il me dit, banco, fais la lettre et je vais lui remettre en main propre. Ouais. Je lui fais la lettre, je la lui envoie, mais très courte, hein, monsieur le président, je vous félicite pour votre élection. Simplement.
Ouais.
Il lui remet la lettre et Jean-Louis Debré me répond en disant que le président était très, très touché par ma lettre, etc. Et puis l'année 94 arrive et voilà qu'il y a les différentes mises en ordre des différents aéropages, des différents partis. Et cet homme qui était président de son propre parti devait se déclarer pour Balladur ou Chirac.
Oui.
Et il me téléphone, tu es sûr, cette fois-ci, moi je brûle mes vaisseaux. Si je m'engage pour Chirac, il n'est pas élu, je serai plus président. Mais enfin, ouais, il y arriverait une pire catastrophe.
J'ai
dit, écoute, non seulement je te le certifie, mais si tu veux, je vais lui faire une lettre pour lui décrire sa campagne. Il me dit, alors, absolument. Donc, je lui fais la lettre, je décris à Chirac à partir de quel moment il va remonter dans les sondages. D'ailleurs, ce moment a correspondu à sa première émission sur France Inter, le petit déjeuner de France Inter, où il avait été brillant, en février 95. Et il est élu, bien sûr, en mai 95.
Ouais.
Quelques années plus tard, cette année, il me dit, ah ben, tu sais, Chirac, il a été élu grâce à nous, on lui a apporté 3 points. S'il n'avait pas eu ces 3 points, il n'aurait pas été élu. Dis donc, cher ami, pourquoi il a eu ces 3 points ? C'est pas parce que je t'ai dit qu'il serait élu et non pas Balladur.
Hein ?
C'est pas toi qui as fait élire Chirac, c'est moi. Rien à ajouter.
Oui, oui. On se rend compte, au fond, qu'il faut, pour pratiquer l'astrologie, il faut être... avoir en soi quand même beaucoup de bienveillance. Et c'est je pensais aux anecdotes précédentes que vous aviez données, et c'est un métier qui peut être exercé au fond par des gens d'une recommandation très, très, très moyenne. Est-ce qu'il existe, d'un point de vue institutionnel, une reconnaissance des astrologues, des professions d'astrologues, ou bien n'y a-t-il pas du tout ? Y a-t-il un ordre ? Y a-t-il,
Ah oui, bien sûr, par le fisc.
Oui, ça joue ça.
Hein, il reconnaît les prostituées, les astrologues.
Ouais.
Non. Et c'est pourquoi je voulais tant reprendre mes études et faire un doctorat pour essayer de réintégrer l'astrologie à l'université. Et on m'a montré que c'était absolument impossible actuellement.
Vous le racontez d'ailleurs.
Bon, voilà. Mais non, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas un organisme, un ordre qui pourrait codifier tout ça. La Fédération des astrologues de France a essayé de mettre au point un certain nombre de... déontologie, si vous voulez. Mais elle a tellement peur de l'opinion des scientifiques, des médias, etc., qu'elle a exclu l'astrologie et un tas de domaines qui sont pourtant celui de l'astrologue, notamment la prévision. Alors, tout ça, c'est pas sérieux. N'importe qui peut être astrologue. Vous lisez deux ou trois bouquins, vous retenez plus ou moins la signification des signes et des planètes, et puis vous arrangez avec tout ça. Et comme la personne en face de vous n'y connaît rien, vous pourrez lui donner un tas. Comme font les voyantes. Vous savez qu'en 4 ans, on est passé de 10 000 à 100 000 voyants en France.
Oui, c'était ça. C'est très révélateur.
Donc, il n'y a pas de codification. Un bon astrologue doit avoir fait des études de psychologie, des études de philosophie et même de théologie. Voilà. Non seulement il doit les avoir faites, mais il doit les avoir intégrées et montrer qu'il a des qualités d'âme qui lui permettent de conseiller ses semblables.
Bien sûr. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, oui. Louis Saint-Martin, il nous reste 2 minutes. Je crois que l'on a bien compris, grâce à vous, à quel point l'art et la poésie astrologique ont une valeur philosophique, métaphysique, spirituelle, extrêmement profonde, quel type de discours elle tient sur le monde et à quel point ce discours-là peut nous élever et contribuer à nous grandir, à nous rehausser, à modifier le regard que l'on porte sur les êtres. Est-ce que vous avez dans les prochains mois, les prochaines années, un projet d'approfondissement, un projet, j'entends, littéraire, livresque, disons, à partir des livres que vous avez publiés, ou bien d'articles, enfin que sais-je, très rapidement, puisque nous n'avons guère le temps, quels sont vos projets dans l'ordre intellectuel ?
Je réponds en deux parties. La première, vous avez utilisé le mot de poésie, le mot d'art. Attention, il ne s'agit pas de s'évader de la réalité, mais il s'agit, grâce à l'usage de l'art et de la poésie, de rentrer en contact avec la réalité. C'est ce que fait l'astrologie. Hein, c'est pas une évasion.
Ah non, absolument pas.
D'accord. Mais pour les auditeurs, c'est peut-être pas aussi clair. D'autre part, oui, bien sûr, ce volume, il devrait avoir volume 1. Mais on m'a dit à l'Harmattan, non. Vous pouvez mettre volume 1 que dans la mesure où vous publieriez tous les volumes en même temps. Et là, c'est le premier, donc on peut pas mettre volume 1.
D'accord.
Mais là, c'est une formation complète en astrologie que je vais offrir à mes lecteurs.
Parfait. Merci beaucoup, Louis.
C'est moi qui vous remercie.
Louis Saint-Martin, merci beaucoup Pierre-Marie Sigaud, merci beaucoup Paul Ducaille.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie, créé par Philippe Nemo et dirigé par Rémi Soulier, émission préenregistrée le 6 juin 2018 et diffusée pour la première fois lundi 2 juillet 2018 de 10h45 à 11h45, réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.